Elle est dépositaire de la pensée de Charles Vouga, cet astrologue, homme exceptionnel sur le plan spirituel. Charles Vouga, extraordinaire par la hauteur de ses vues, par le niveau auquel il plaçait l'astrologie. L'astrologie, cette science qui est, entre autres, une philosophie de la vie, une conception sur la psychologie des êtres et sur leur rôle dans l'univers et en eux-mêmes. L'astrologie, c'est la clé du connais-toi toi-même. C'est aussi parfois la prédiction, mais l'interprétation d'un thème astral demande non seulement une grande rigueur de la pensée, mais aussi une certaine intuition. Une certaine idée de l'astrologie, cette connaissance des correspondances célestes et terrestres. Germaine Hellet nous expliquera notamment les influences subies par notre monde, d'une part de la planète Pluton, aux vibrations lourdes et matérialistes, et d'autre part de Neptune, représentant l'idéal que chacun porte en soi. Germaine Hellet parlera également de l'important passage de l'ère des poissons qui commença à la naissance du Christ, à l'ère du Verseau, dans lequel nous précèdent déjà certains scientifiques. Ce changement de cycle devrait entraîner une totale modification des structures politiques, sociales et spirituelles.
Germaine Hellet, vous êtes française, mais vous êtes surtout astrologue, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'astrologie, dont certains ont été publiés en Amérique. Il y a « Comment comprendre votre horoscope », « Pluton et Neptune », « Astrologie, karma et clairvoyance », « Rythme cosmique » et « Destinée humaine ». Je crois que ce sont les principaux. Je n'en dirai pas plus pour vous permettre de nous faire comprendre à travers quel fil, finalement réuni, vous êtes parvenu à l'astrologie que vous pratiquez depuis 25 ans, Germaine Hellet.
Au départ, rien ne m'y préparait apparemment, sinon que ma mère était assez intéressée par ces questions. Mais enfin, j'ai eu une vie de jeune fille pendant la guerre, une vie d'enfant pendant la guerre de 14. Ensuite, j'ai fait mes études, des études très sérieuses, parce que j'adorais l'étude.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études?
À cette époque-là, c'était le brevet supérieur, qui était des diplômes assez difficiles, qui maintenant sont passés de mode aussi. Et puis je me suis mariée, mon mari était officier, je suis partie en Allemagne, au Maroc, où j'ai vécu 10 ans, 9 ans au Maroc. Ce fut une longue expérience, j'ai eu des enfants.
Et vécu finalement une vie très conventionnelle jusque-là.
Très formaliste, mon père était lui-même officier, mon père était général, bref, vraiment la fille d'officier. En moi, quelque chose secrètement se disait... Il y a certainement autre chose dans la vie de plus intéressant que cette vie que je mène. Plus le temps passait, plus j'avais l'impression que tout ceci ne correspondait pas à ce que je cherchais au fond de moi-même. Mais enfin, je le mets parce qu'il était difficile de faire autrement à cette époque-là. Et puis j'avais des enfants. Puis la guerre de 39 est arrivée. Mon mari est parti rejoindre De Gaulle. Je suis restée avec mes enfants en Bretagne. Un fils et une fille. Un fils surtout qui me donnait des soucis parce que c'était à l'âge où les Allemands les réquisitionnaient. Et ce furent 4 années difficiles, mais tout de même, en dehors de tout problème, si ce n'est les problèmes immédiats à ce moment-là. Avec un vague intérêt pour l'astrologie déjà, mais très vague. Puis mon mari revint, et mon Dieu, 4 ans de séparation ne représentaient pas un aboutissement très facile du couple. Et finalement j'attendis encore un moment, mes enfants se marièrent, et à partir de ce moment-là, même les choses s'engrainèrent de telle manière que je compris que j'avais du temps, je commençais à écouter les conférences à Paris. J'étais à Paris à ce moment-là, j'écoutais nombre de conférences et je me souviens même à certaines d'entre elles, je suis sortie avant la fin des conférences d'astrologie en me disant « il n'est pas possible que ce soit ça l'astrologie », tellement en moi quelque chose résistait à cette présentation tellement facile et tellement matérialiste de l'astrologie. Donc le temps passait jusqu'au jour où on me conseilla d'aller écouter Charles Vouga en me disant, vous verrez, c'est un homme très intéressant, il connaît beaucoup de choses sur Pluton. Et j'y suis allé là comme j'ai été, en écouter beaucoup d'autres. Et au bout de quelques phrases, j'ai senti instantanément, je me suis dit, ça c'est l'astrologie que j'ai toujours cherché. Ça a été un coup vraiment... un moment très très fort dans ma vie, excessivement fort. Je suis rentrée dans ma voiture en tremblant pendant un quart d'heure, en me disant, c'est, j'ai trouvé vraiment ma voie. Et alors, quelque temps après, j'ai voulu le voir, le rencontrer, travailler. Enfin, j'ai voulu travailler avec lui. Et à partir de ce moment-là, je me suis donnée avec passion. C'était vraiment la voie que je cherchais. Et l'astrologie telle que je la cherchais aussi, parce qu'il y a tous les niveaux.
Jean-Ménolé, je crois qu'il est impossible de parler de votre propre existence et, disons, de l'astrologie de Jean-Ménolé sans évoquer la personnalité de Charles Vouga.
Ah oui, oui, parce qu'il a marqué ma vie terriblement et que c'était un homme tout à fait extraordinaire. Tous ceux qui l'ont rencontré ont compris le sens de l'humain qu'il représentait et en même temps l'apport extraordinaire sur un plan spirituel. D'ailleurs, il était suisse d'origine. Sa famille était de Genève, mais il était né à New York.
Il est rentré en Suisse
pour... tout enfant, tout bébé, on l'a ramené en Suisse et il a fait toutes ses études à Genève. Mmh. Et il était attiré très tôt par tous les mouvements théosophiques qui étaient alors, n'est-ce pas? Et il a cherché sa voie aussi, il cherchait sa voie à travers tous ces mouvements sans jamais la trouver. Il est retourné en Amérique, il a participé à de nombreux... Les mouvements théosophiques existaient alors et qui étaient très très nombreux, n'est-ce pas? Il en retirait toujours une espèce de déception, un sentiment de frustration et d'insuffisance, jusqu'au jour où le destin, c'est pas le hasard, parce que le hasard n'est qu'un mot dont on recouvre son ignorance, le destin l'a fait entrer dans un institut d'astrologie, et immédiatement il a eu aussi ce coup de foudre que j'ai eu moi-même, il l'a eu également en se disant, mais alors si c'est vrai, Le reste n'existe pas, n'est-ce pas? Si c'est vrai, alors là, il s'est mis à étudier passionnément pour savoir si c'était vrai. Et à partir de ce moment-là, comme il a constaté, expérimenté que c'était vrai, il s'est donné totalement, n'est-ce pas?
Il y a un vécu qui est très difficile à décrire, Jean-Ménolé, mais j'aimerais quand même que vous essayiez de nous faire comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que ça a été un enthousiasme par rapport à une certaine théorie de Charles Vouga? Enfin, on peut s'emballer pour des idées. Oui. Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que... Enfin, comment ça s'est passé?
Eh bien, il est tout à jouer, vraiment, n'est-ce pas? À la fois l'homme qu'il était et à la fois l'idée qu'il représentait et qu'il vivait. Le tout a joué, je ne peux pas séparer l'un de l'autre, d'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé avec lui, j'ai commencé par suivre les cours, j'ai travaillé avec lui. Et puis, petit à petit... Forcément, une plus grande amitié s'est instaurée entre nous. Il savait lui-même, venant en France, on lui avait dit là-bas, parce qu'il a vécu très longtemps dans les chapelles américaines, en rapport avec des médiums, et enfin dans son travail aussi, n'est-ce pas? Il savait en venant en France qu'il trouverait une femme qui le continuerait. Il le savait.
Sans des prémonitions?
Ah non, on lui avait dit. Non, ce n'était pas une addition personnelle, il était averti. Parce que je vous dis, il vivait là-bas en rapport vraiment avec, en rapport médiumnique avec des mondes spirituels très hauts, n'est-ce pas? Il le savait, évidemment, il ne savait pas qui, on ne l'avait pas dit, on ne dit pas tout. Sinon, ça serait plus drôle. Et petit à petit, d'ailleurs, il ne l'a jamais dit, je l'ai su après son départ, par des amis auxquels il l'avait confié. Lui, il n'a jamais voulu me le dire parce qu'il ne voulait pas me donner cette charge. Parce qu'au fond, c'était quand même une lourde charge que de le continuer. De transmettre ce qu'il avait apporté. Ça représente un effort énorme que j'ai fait avec joie et avec passion, je dirais même.
Jean-Ménolé, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu un enthousiasme pour la pensée, enfin pour tout ce que représentait Charles Vouga. Vous nous avez dit aussi que vous aviez suivi plusieurs conférences concernant l'astrologie.
Ah oui, alors avant, oui, je cherchais.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a, parce que là, il y a certainement quelque chose qui vous a particulièrement impressionné au moment où vous avez entendu Charles Vouga. Est-ce que c'est la sincérité? Est-ce que c'est...
Oui, c'est la vérité.
Voilà.
Vous comprenez? C'est le niveau auquel il plaçait l'astrologie.
Voilà.
Je ne l'avais pas trouvé chez les autres astrologues. Je l'avais trouvé à un niveau aussi, enfin, si horizontal. Je ne savais pas alors rien de tout cela à ce moment-là. J'étais quand même assez jeune, vu d'aujourd'hui. J'étais pas si jeune, mais vu d'aujourd'hui, je me parais très jeune. Et vu d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait en moi un refus de cette perspective astrologique. Et alors, qui est complètement tombé, qui au contraire, j'ai senti que c'était ce niveau-là que je cherchais. Or, il nous l'a apporté sur un niveau le plus haut qu'on puisse être dans la pensée actuelle du monde, moderne. Voyez-vous?
Absolument.
Pour un niveau spirituel inégalé maintenant.
Alors Germaine Hollé, maintenant je crois qu'on peut entrer dans le vif du sujet, je crois qu'on a fait connaissance.
Oui.
Alors qu'est-ce que l'astrologie pour Germaine Hollé, c'est-à-dire pour Charles Vouga également?
Oui, parce que je vous dis, je continue ce qu'il a apporté, je cherche à le diffuser toujours davantage, c'est ça mon rôle et c'est ça ma passion aussi, donc j'ai même aucun mérite parce que c'est une joie immense. Eh bien, l'astrologie, c'est donc un niveau de conscience tout à fait différent de l'astrologie courante et classique, qui est surtout une science de prédiction. Quand on vous parle d'astrologie et d'astrologue, on pense qu'on va vous dire presque la bonne aventure. Or, l'astrologie, elle est bien autre chose aussi, elle est cela aussi, si vous voulez, mais elle est surtout une philosophie de la vie. C'est-à-dire qu'elle vous apporte de telles conceptions sur la psychologie des êtres et sur leur rôle dans l'univers et en eux-mêmes, que vous êtes obligé d'échanger en même temps que beaucoup de choses en vous se transforment, n'est-ce pas? Il y a une mutation intérieure résultant de cette initiation à cette pensée astrologique.
Germaine Hollé, je crois que il faut pouvoir donner envie aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent d'entrer dans cette astrologie, ou du moins d'essayer de l'entrer. Vous avez été très vague sur ce qu'est pour vous l'astrologie, on peut le saisir, c'est très suggestif, mais est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus précis?
Certainement. Alors l'astrologie est une science, parce que c'est une science, et avec l'acupuncture, je le disais, donc la plus ancienne des sciences connues, c'est une science parce qu'elle repose sur l'astronomie, donc sur quelque chose de scientifique et de précis. Elle est interprétation d'un état astronomique, d'un état scientifique du ciel, et elle vous permet, c'est là sa valeur essentielle, elle permet à l'homme de se comprendre lui-même. Elle est la clé du connais-toi toi-même. L'homme ne peut vraiment se comprendre vraiment et comprendre les énergies dont il dispose que lorsqu'il a pu saisir le jeu de ses énergies et la pulsion de ses énergies en lui-même. Nous sommes tous mus par des énergies, auxquelles nous pouvons donner des noms qui sont des noms symboliques de planètes, et qui jouent à tour de rôle certains circuits qui nous permettent d'être ce que nous êtes et de passer par des étapes différentes de bonheur, de joie, ou de désespoir, ou de crainte, ou enfin tout ce qui fait partie de l'histoire d'un être humain.
Là, j'aimerais vous préciser, vous avez parlé du symbole des planètes.
Oui.
Et là, j'aimerais que vous soyez un tout petit peu plus clair.
Eh bien, pour nous, chaque planète, dans les 10 planètes du système solaire, et chacune de ces planètes va être le symbole d'une des énergies qui nous... pour préciser encore davantage, la Lune va être le symbole de notre sensibilité, le Soleil de notre volonté, Vénus de notre amour. La qualité de notre amour va dépendre du rôle et de la situation de la planète Vénus à l'instant où nous sommes nés. Et c'est elle qui va marquer la qualité dont nous sommes capables d'aimer et d'être aimés, en fait tous les rapports affectifs humains. Mars va représenter être le symbole de l'énergie, Jupiter sera le symbole de l'enthousiasme, Saturne de la contrainte et de l'expérience et de l'autorité, Uranus sera le symbole de l'originalité de notre pensée et de la richesse de notre pensée, Neptune sera le symbole de notre idéal, et Pluton sera le symbole de la matière, de la partie qui en nous demeure encore très matérielle. Nous sommes donc entre ces deux pôles de la matière et de l'esprit en constante dualité. Avec l'accord de ces énergies planétaires, que ce soit l'amour, la sensibilité, qui s'accordent tantôt à la matière, tantôt à l'enthousiasme, tantôt à l'idéal. Mais il y a un jeu de rapport entre ces énergies, par leur position planétaire au moment de la naissance, qui va créer notre caractère et les facultés, les différentes facultés de notre psyché.
Est-ce qu'on peut y échapper ou bien est-ce qu'on y est soumis?
C'est la grande question.
On aimerait savoir votre
question. Oui, bien sûr. Non, parce que vous êtes venu avec ce thème, vous êtes venu avec cet horoscope je veux aussi le concrétiser davantage. Nous nous basons pour raisonner sur la situation astronomique au moment et dans le lieu, le jour, l'heure où vous êtes né.
Pourquoi est-ce si important, le jour où l'on est né?
Parce que c'est très précis. L'astronomie est une science parfaitement précise. Ce sont, dans un certain ordre d'idées, ce sont des mathématiques pures. En mer, quand vous êtes en mer, vous faites le point pour savoir où vous trouvez en mer, longitude, latitude, etc. C'est la même chose. Vous faites le point à l'instant où l'enfant pousse son premier souffle, une vibration est créée par sa situation planétaire, il inspire cette vibration, et c'est cette vibration qui va marquer son caractère. Cette vibration céleste, astronomique, qui va s'imprimer sur cette pâte molle qu'est l'enfant, si vous voulez, et qui va marquer son caractère. Donc, son destin.
Jérémy, vous avez parlé d'un système de connaissances, enfin d'une science presque mathématique. Et alors là, j'aimerais lui opposer, je pense que vous serez d'accord, une deuxième phase qui fait partie de l'astrologie, et je pense à un titre presque plus important. On ne peut rien faire sans l'établissement du thème, évidemment. Mais, il y a l'interprétation.
Exactement.
Et c'est là.
Apprendre à monter un thème, il suffit de quelques heures, surtout si vous êtes doué, et même parfois de très peu d'heures. Et apprendre à l'interpréter, il faut des années. Parce qu'il y a une question d'expérience, une question d'intuition qui joue, une question de raisonnement, il faut bien le dire, et une question de très grande expérience. L'interprétation d'un thème demande une rigueur de la pensée, en même temps qu'une intuition, il faut la combinaison de la rigueur de la pensée et de l'intuition.
Vous avez énuméré tout à l'heure les symboles des planètes. Et alors on a l'impression que c'est presque immuable, ceci veut dire cela. Et alors que dans un thème, vous avez à tenir compte des inter-influences, des inter-réactions, si vous préférez.
Oui, parce que ces planètes sont donc situées dans le ciel, dans certains signes du zodiaque, dans certains secteurs de l'expérience humaine, mais elles font certains aspects. Et ce sont ces aspects, des angles de degrés, qui les relient, qui vont créer les courants d'énergie. Et l'énergie dont nous sommes faits procède essentiellement de ces angles de degrés qui relient entre elles nos planètes. Et nous sommes constamment entraînés, nous sommes propulsés davantage par ces courants d'énergie internes. Vous avez des gens qui ont des grands carrés, qui sont toujours en mouvement et toujours en pleine création. Et vous en avez d'autres, au contraire, qui ayant surtout des trigones, sont pacifiques, harmonieux, calmes et sereins, vous voyez. Il y a toute une résultante de ces coordonnées entre les planètes qui vont créer, comme je le disais, la psychologie d'un être et son comportement dans la vie.
Est-ce que vous pourriez trouver, pour que nous comprenions mieux, une image qui est en relation avec ce jeu des énergies dans un thème? Est-ce que ça ressemble?
J'ai un fils architecte, et quand il voit les graphiques, parce que ce ne sont pas autre chose qu'une reproduction d'une situation astronomique, donc un graphique, il me dit que ça ressemble absolument à un graphique d'architecture, n'est-ce pas? C'est une structure, c'est une architecture de notre psyché, qui comporte ces situations planétaires, les éléments, parce que je synthétise beaucoup, n'est-ce pas? Nos planètes se trouvent situées dans des éléments différents, qui vont créer des états de conscience différents, suivant que les planètes sont davantage situées dans les signes de feu, nous serons plus ardents. Si elles sont dans les signes d'eau, nous vivons une douce inconscience et perméabilité. Si elles sont davantage dans les signes de terre, nous sommes des êtres absolument concrets. Et dans les signes d'air, nous sommes toujours en mouvement dans le domaine des idées, vous voyez. L'être humain, vous me demandiez tout à l'heure si on pouvait y échapper. L'être humain, au départ, est absolument contingenté, par ce schéma, cette architecture de sa psyché en correspondance avec l'état du ciel auquel il est né. Et ce schéma donc, qui se trouve statique à l'instant de la naissance, va ensuite être en constante mutation par les mouvements cycliques des planètes du ciel qui tournent autour. Parce que rien n'est statique dans l'univers. C'est un instant, une vibration, qui va être constamment en mouvement en suivant les cycles planétaires qui tournent autour du thème et qui vont créer toutes les étapes de votre existence, suivant les planètes qui sont en jeu.
Vous avez l'impression que même l'évolution ne peut pas faire que vous transcendez votre thème?
Ah oui, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Alors l'évolution vous permet de le transcender. Le transcender, le mot...
Vous l'échappez un peu.
Non, mais vous le voyez sous un autre angle. Je ne dis pas qu'il ne joue plus, parce que c'est le programme de votre existence, en réalité. Ce schéma, cet horoscope, est un programme de vie. C'est posé un programme comme un programme dans un ordinateur, vous comprenez? Mais dans la mesure où vous en devenez conscient,
et c'est là... Les choses sont moins pesantes.
Exactement. Vous vous en désidentifiez. voyez-vous. Le mal s'est vraiment été identifié à la chose. Plus, moins il est devenu, plus il est identifié. Et plus il est devenu, plus il se désidentifie. Donc il devient spectateur d'une situation et il n'est plus pris comme acteur. Il est encore pris dans une certaine mesure parce que ça joue toujours quand même, mais c'est totalement différent comme résultat. Alors je ne dis pas qu'on échappe au thème, je ne dis pas qu'on transcende, mais on le voit sous un autre angle, on se désidentifie. Ça change beaucoup. J'ai eu l'occasion encore de le vérifier dernièrement pour moi, où j'avais des aspects très forts à passer. Il a fallu que je les passe, bien sûr, mais je les ai regardés avec les yeux avertis, vous comprenez, avec une lucidité qui m'a permis de les voir différemment, donc de prendre certaines précautions pour les passer mieux, aussi. Parce que c'est la moindre des choses, quand même.
On dit souvent, Germaine Allais, que le thème, finalement, d'un criminel comme celui d'un saint peuvent être très similaires. Alors là, il y a un mystère, malgré tout, lorsqu'on n'est pas astrologue.
Oui, bien sûr. Alors, on nous oppose, je crois, c'est le thème du docteur Petiot, qui a été un sujet de controverse entre les astrologues. Voyez-vous, c'est justement... Alors, je vais revenir à Charles Bougard. Parce que le grand mérite, son très grand mérite, c'est d'avoir apporté à l'astrologie cette vision de l'évolution des êtres entre des pôles différents qui sont ces planètes Pluton et Neptune qui ont été découvertes relativement récemment. Elles ont été plus ou moins étudiées, on a dit que ce sont des planètes du collectif, qui n'intéressent pas l'individu, elles n'intéressent que le collectif, or comme elles font partie des 10 planètes du système solaire, nous les avons en nous.
Et qu'est-ce qui intéresse le collectif sans intéresser l'individu ?
C'est évident, nous sommes participants de cet univers, n'est-ce pas ? C'est, le raisonnement est vraiment... C'est là où il y a un sens dans le raisonnement. Oui. Nous y retrouvons. Donc, ces planètes sont en nous, toutes ces énergies d'ailleurs sont en nous, elles sont internes en nous-mêmes, et ces planètes plutôt en Neptune, donc c'est deux pôles de la dualité, si vous voulez. Représente des étapes de l'évolution de l'être humain.
Je vous demandais une image tout à l'heure, mais finalement, Charles Vougat, je crois, c'est lui qui a dit que l'homme était un système solaire.
Oui, il est un système solaire. Et il n'est pas qu'en lui. Nous sommes en microcosme, il y a l'image du macrocosme, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes cela, n'est-ce pas ? Et l'acupuncture tient compte de la même chose aussi. On travaille sur les méridiens qui sont à l'image du ciel dans le corps humain, n'est-ce pas ? Nous sommes vraiment microcosme à l'image du macrocosme.
Alors, vous parliez de l'énergie de ces deux planètes-là.
Ces deux planètes représentent des énergies. Alors, je vous dis, ça a été le grand travail de Charles Vougat, c'est de les situer beaucoup mieux dans leur rôle dans l'individu. Elles jouent actuellement très fort dans le collectif, parce qu'elles ont un rôle très capital dans la situation actuelle du monde. Nous sommes à un tournant de l'histoire où Pluton s'approche de la Terre, son péril, il a un mouvement qui est elliptique, et qui fait qu'à certains moments il est très proche, et d'autres moments il est très loin. Les planètes en général tourneront autour du Soleil, si vous aimez.
Ça veut dire que plus elles s'approchent de la Terre, c'est tout à fait naturel, plus l'influence est grande.
Exactement. Et nous vivons cette époque-là, où Pluton maintenant s'approche de ce qu'on appelle son périhélie, c'est-à-dire du moment où il y a une différence énorme entre le temps où il est à son aphélie, c'était vers 1800, son cycle est de 240 ans, c'est vers 1840, je crois qu'il était à son aphélie, et maintenant il arrive à son périhélie, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la Terre, et qu'il apporte à la Terre cette vibration lourde, matérialiste, d'où découle tout ce qui nous entoure actuellement, la pollution, enfin tous les drames actuels, proviennent en très grande partie de l'approche de Pluton, du Soleil, donc de la Terre. Il y a toute une géométrie astronomique qui va créer des conséquences sur le plan délétère, psychologique, psychique, et je vous dis qu'ils vont dans ces domaines-là, et qu'ils font la criminalité, tout ce domaine actuel qui nous amène à un monde assez redoutable, provient en plus grande partie de l'approche du périhélie de Pluton.
Parce que vous avez écrit un livre qui concerne Pluton et Neptune, alors Neptune, qu'est-ce qu'il
alors,
Neptune, Neptune
alors, laissons Pluton et tout ce qui nous apporte de très mauvais. Et Neptune, au contraire, lui, il représente l'idéal que chacun porte en soi, parce que chacun de nous le désire, souhaite atteindre un certain niveau, et porte en lui une certaine lumière et un certain espoir, n'est-ce pas ? Dieu merci, l'être humain est ainsi fait, l'espoir est toujours en lui, et l'espérance est la chose qu'on peut le moins enlever à l'homme. On peut tout lui ôter, sauf lui enlever l'espérance, vous savez, à condition qu'on lui laisse l'espérance. Et c'est l'espérance en quelque chose, en cet état supérieur, qui est vraiment le but qu'il pressent devoir atteindre à travers toutes les étapes de sa vie. Donc l'homme se débat entre cette matière qui le retient, et quand l'astrologie a tout dit, c'est plus je vais, plus ma pensée se synthétise, l'homme se débat entre ce passé et cette matière qui le tient, qui le retient, et cette espérance et cet idéal qu'il espère rejoindre. Et tout le jeu de l'astrologie, c'est d'arriver à délimiter les forces qui sont en jeu dans chacun de ces courants, et pouvoir en faire prendre conscience aux gens pour qu'ils puissent mieux les comprendre et les dominer. Parce que l'astrologie vous permet de comprendre ce jeu de force. Et dans un thème, nous trouvons, mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire, dans un thème, nous trouvons, suivant le rôle de ces deux planètes, nous trouvons la tendance d'un individu vers un côté et vers l'autre, et j'arrive à votre problème que vous me posiez tout à l'heure, c'est qu'un criminel va être beaucoup plus tenu, porté ou pris par des aspects plutoniens, c'est ce que nous voyons.
Négatif.
Négatif. Alors qu'un saint sera davantage pris par des aspects neptuniens. C'est-à-dire qu'il a transcendé, mais enfin, transcendé, il est toujours sur la Terre quand même, mais enfin, il tend vers ce pôle de lumière, alors que le criminel est retenu et tenu, et tend vers le pôle de la criminalité, pour lui, représente un aspect très clair d'un thème, c'est-à-dire des aspects de Pluton avec Mars, voyez-vous. On peut attribuer à tout ce qui est d'ordre criminel des aspects de Pluton. Et tout ce qui est d'ordre spirituel des aspects de Neptune. Mais le drame actuel dans ce monde, cette période finissante, c'est que ces deux planètes se trouvent réunies par un sextile. C'est pour ça que tout est confus.
C'est un sextile,
c'est un aspect de 60 degrés, évidemment. C'est un aspect de 60 degrés dans le ciel, parmi ces fameux aspects, qu'il faut que ces deux planètes fonctionnent ensemble. Et fonctionnant ensemble, eh bien, il est très difficile de distinguer l'ombre de la lumière. Et c'est ça qui crée la confusion dans laquelle nous vivons. Et une autre chose qui crée aussi un des aspects de la vie moderne, c'est ce manque de temps que chacun de nous subit, sous une forme ou sous une autre. Or, ce manque de temps est dû à l'accélération de cette planète Pluton qui, plus elle s'approche de son périhélie, plus s'accélère. Et plus elle s'accélère, plus les hommes sont emportés dans cette accélération démentielle parfois. Donc, tout le monde connaît les effets. Même dans les campagnes les plus reculées, maintenant, nous avons la même chose, nous n'avons plus le temps.
Jamais Mollet, j'aimerais revenir à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire à ce macrocosme et à ce microcosme, pour vous demander comment cela joue ensemble. Parce que vous avez dit, d'une part, il y a les planètes du système solaire extérieur, et il y a finalement les planètes qui nous concernent, la place des planètes au moment de notre naissance. Alors, est-ce que ces deux données sont contradictoires, enfin, est-ce qu'elles s'opposent d'une certaine façon, ou bien est-ce qu'elles sont convergentes?
Elles résonnent l'une en l'autre. Nous raisonnons, j'emploie le terme de raisonner, et pas d'influencer, parce que nous ne sommes pas du tout influencés. Nous sommes comme une table de vibration, nous sommes ce système solaire qui résonne constamment au mouvement du système solaire. Nous sommes ce microcosme qui résonne au mouvement du macrocosme.
C'est un peu comme les deux diapasons qui
résonnent. Exactement.
Oui.
C'est une affaire de résonance de vibration. Nous sommes une table de résonance. Et plus les êtres sont sensibles, plus ils résonnent, naturellement. Résonnent comme raisonner.
Mais il y a malgré tout des répercussions qui se font mieux sentir chez certains êtres parce qu'ils ont certains aspects dans leur thème par rapport au macrocosme.
Certainement. On réagit davantage aux lorsqu'on a déjà les choses en soi, on réagit davantage au cycle qui se passe. Parce que vraiment, on ne peut voir à l'extérieur que ce que l'on a vraiment en soi, n'est-ce pas? Il y a ce rapport constant du soi avec le monde extérieur dans lequel nous vivons et avec le macrocosme.
Alors là, il me semble qu'il y a un terme très important, je crois qu'il n'a pas été indifférent d'ailleurs à Charles Vouga, à vous non plus, Germaine Hollet, c'est qu'il y a ce moyen terme qui est peut-être d'un autre ordre entre les deux pour cette compréhension du macrocosme et du microcosme. Mmh. Il y a peut-être la conscience, le degré de conscience.
Alors, nous en revenons à ce que je vous disais, c'est que l'astrologie vous permet de prendre conscience de cette résonance. Parce que 95% de l'humanité résonne sans arrêt, et nous les observons, nous qui savons comment les choses se passent, et c'est très intéressant de les voir résonner sans en avoir conscience. Et à partir, alors, c'est toujours la même chose, et à partir du moment où l'on en prend conscience, on peut plus facilement s'en désidentifier. Nous revenons toujours au même problème du degré d'évolution dû à une désidentification d'un état primitif pour s'identifier à un état supérieur. Vous voyez, il se passe dans la conscience de l'être humain une évolution semblable à celle qui s'est passée dans les millions d'années à travers l'espèce humaine, et qui se passe dans cette tranche de vie, et qui est d'autant plus forte que l'on en prend conscience, parce qu'on peut, je ne dis pas l'accélérer, parce que ce n'est pas bon, mais participer à cette mutation, vous comprenez ? Donc la vivre plus consciemment, donc lui donner plus de force et plus de poids.
Germaine Hollet, qu'est-ce qui s'est modifié dans votre vie à partir du moment où vous avez pris conscience des richesses, enfin c'est pas de richesses qu'il faut parler, mais de la possibilité d'ouverture que donne l'astrologie ?
Eh bien, forcément, on ne peut pas entrer dans ce domaine, s'initier à cette forme de pensée.
Sans y entrer vraiment.
Sans y entrer complètement, parce que c'est absolument fascinant. C'est fascinant de se voir soi, c'est fascinant de voir les autres et de comprendre toujours davantage ce qui vous entoure, n'est-ce pas? Et cela entraîne alors, forcément, d'abord, cette prise de conscience, et ensuite, une immense compassion pour les êtres, et une immense tolérance aussi. On comprend très bien qu'ils aient à passer par certains moments qui font partie de leur expérience humaine. Forcément, d'abord, cette prise de conscience, et ensuite, une immense compassion pour les êtres, et une immense tolérance aussi. On comprend très bien qu'ils aient à passer par certains moments qui font partie de leur expérience humaine, donc... Et on peut les aider d'une manière extraordinaire, surtout. C'est comme une médecine de l'âme, vous comprenez? Je disais, j'ai passé moi-même par des épreuves assez terribles, et je n'avais rien, on ne proposait rien pour m'aider. Et parfois, quand je vois les gens qui viennent me voir, et que je peux leur dire, eh bien voilà, il y a ceci, il y a cela, vous en avez encore pour ce temps-ci, et vous avez ceci qui vous permet de supporter cela, je me dis, mon Dieu, quel privilège ont-ils de pouvoir avoir accès à ce domaine qui leur permet de passer bien mieux et de comprendre bien mieux le sens des choses. Les gens ne se comprennent pas entre eux. Vous savez combien de fois j'ai des mères qui ne comprennent pas leurs enfants ou des maris qui ne comprennent pas leurs femmes.
Un thème pour vous, Germaine Hollet, c'est finalement la personne qui se trouve devant vous, enfin...
Oui, j'ai besoin qu'elle soit devant moi. Je n'aime pas du tout faire ça par écrit parce que du contact, de l'échange, on peut aller certainement beaucoup plus en profondeur et on peut toucher beaucoup plus les racines de l'être. On peut dire beaucoup de choses dans une lettre, mais on ne touche pas les vraies racines comme lorsque l'être est devant vous et qu'on peut lui demander que s'est-il passé à cette époque et qu'immédiatement il est pris dans le jeu lui-même et il fait un examen de conscience sérieux. Et très souvent, lorsque les gens m'ont quitté, ils me téléphonent en me disant « Ah, mais oui, mais j'ai repensé à cela, mon Dieu, quand j'y repense. » Vous savez, c'est toute une prise de conscience.
Germaine Hollet, j'ai mal posé ma question, mais la réponse était intéressante. Mm-hmm. Ce qui fait que je n'ai rien à regretter, mais... Ce que je voulais dire, c'est lorsque vous avez un thème devant vous, est-ce que vous avez l'impression véritablement que vous avez, on pourrait dire aujourd'hui, la photo, une photo qui bouge, enfin vous avez toute la personne absolument devant vous.
Alors attendez, votre question est justement excellente, parce que j'ai le thème de la personnalité qui est devant moi. Ça, c'est pour moi, c'est très vite déchiffrable et déchiffré, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est une vibration. Et quand parfois on veut me donner des thèmes, on a voulu justement une fois, je ne sais pas pourquoi le docteur Petiot revient, on a voulu me donner ce thème, je dis, je ne veux pas de ces thèmes-là, parce que tout vibre, n'est-ce pas? Et chacun de ces thèmes vibre, donc on a l'intérêt à ne pas garder des thèmes aussi négatifs que ceux-là. Mais
est-ce qu'il y a vraiment des thèmes fondamentalement négatifs?
Enfin, il peut l'être par moment, mais plus ou moins, et par moment il l'est. Nous sommes tous par moment négatifs. On passe tous par des aspects qui tout d'un coup nous font apparaître sous un angle absolument différent de celui que nous sommes en vérité. Alors ça n'est pas la question. Mais que me posez-vous comme question alors?
Je vous demandais si vous aviez, au moment où vous avez un thème devant vous, vous avez la personnalité
totale. Ah oui. Voilà, j'ai la personnalité, mais ce thème va me donner la signification de ces énergies, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut devenir. De ce qu'elle peut devenir, c'est ce qui m'importe le plus, parce que je m'occupe surtout de l'évolution, c'est ça qui m'intéresse énormément, des possibilités d'évolution d'un être. Mais je sens très bien qu'il se cache derrière ce thème l'être lui-même qui est, si vous voulez, qui s'est incarné en vérité, une face de lui-même s'est incarnée, mais qui a quelque chose de l'être lui-même qui m'échappe, qui n'est pas tout entier dans le thème.
Il n'est pas enfermé dans le thème.
Absolument pas. C'est celui-là qui est libre. Et plus il est fort, plus il est libre. Mais ça, j'ai ce sentiment très fort, n'est-ce pas? Tout en voyant très bien tout ce qui se passe dans cette personnalité, dans cette incarnation et dans ce programme de vie, je sais qu'il y a quelque chose au-delà que je ne touche pas.
Germaine Ollet, est-ce que vous êtes croyante?
Oh, certainement, oui. D'ailleurs, vous savez, on ne peut pas... J'admire qu'il y ait des astrologues qui se disent athées, parce que il n'est pas pensable de voir ce jeu, ce vaste jeu du cosmos, sans savoir qu'il y a une énergie qui dirige tout, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle autrement, le nom importe peu. Tout ça est dirigé, tout ça est ordonné, il y a des lois, il y a une ordonnance de l'univers qu'on ne touche qu'à travers l'astrologie, qui vous donne le sentiment de la présence de Dieu sous quelque forme que vous le perceviez, ça n'a pas d'importance.
Germaine Ollet, nous allons entrer dans l'ère des Verseaux, nous quittons l'ère des Poissons. Alors, quelle est l'importance de ce passage, selon vous, pour l'homme d'une ère à l'autre?
Pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui auront à le vivre, ça représente une grande étape de l'humanité. Il y en a eu deux, puisque cette ère, comme les autres, représente un cycle de 2160 ans. Et nous aboutissons maintenant, après l'ère du taureau, du bélier, nous aboutissons à cette fin d'ère des poissons, et chaque fois qu'il y eut un changement d'air, toutes les structures sclérosées par le temps sont évidemment transformées et pour être adaptées à l'ère qui s'annonce. Nous sommes donc dans cette période intermédiaire entre deux ères, celle des poissons qui s'achève et celle du Verseau qui s'annonce, où tout est remis en question, que ce soit sur tous les plans politiques, économiques, religieux. Ceci s'est déjà passé un certain nombre de fois dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, les Égyptiens, le sachant, reconstruisaient leur temple à chaque changement d'air, en se servant de quelques-unes des pierres précédentes, mais en reconstruisant leur temple suivant les coordonnées de l'air qui s'annonçait. Nous sommes donc dans cette situation actuellement, de changement d'air, nous sommes à peu près à la charnière, et cette ère du Verseau ne commencera guère avant l'ère 2020, vraiment, enfin qu'il soit vraiment commencé. Et les habitants de la planète Terre ont à vivre cette étape de l'histoire, que chacun de nous va vivre à sa manière, suivant sa disponibilité à franchir le cap plus facilement.
Ce changement sera tout de même différent du changement qui s'est opéré de l'époque du taureau, de l'ère du taureau à l'ère du bélier.
Forcément, étant donné que nous changeons de signe, nous changeons d'élément, donc nous changeons complètement d'énergie, puisque chaque signe est un réservoir d'énergie, c'est donc vers une nouvelle énergie que cette humanité se dirige, et déjà il y a de nombreux précurseurs qui l'annoncent, chez les scientifiques précisément, qui sont justement les hommes déjà de demain, de véritables précurseurs, que ce soit les gnostiques de Princeton, que ce soit Heidelberg qui a écrit la partie et le tout. Il y a toute une série de physiciens et de scientifiques qui, eux, sont déjà à la pointe et déjà de cette ère du Verseau. Et vous en avez d'autres qui, eux, restent encore à l'étape des poissons, et les jeunes générations, elles, sont déjà du Verseau, n'est-ce pas? Et c'est le problème, c'est ce qui fait le tel hiatus dans les jeunes générations entre les parents et les enfants, c'est que les enfants sont déjà dans un monde différent de celui des parents. Ils sont déjà du Verseau, la plupart du temps.
Germaine Ollet, est-ce qu'on peut préciser un petit peu qu'est-ce qu'on attend de cette ère du Verseau?
Qu'est-ce qu'on attend? Que nous apporterait-il? Eh bien, l'ère que nous venons de quitter, cette ère des poissons, qui a commencé avec l'avenue du Christ d'ailleurs, qui était symbolisée justement par le signe d'eau des pêcheurs et du baptême, cette ère que nous abandonnons a été marquée surtout par des confrontations, par des dualités et par des antagonismes que représente d'ailleurs le graphisme des poissons, deux coupes renversées et opposées, et qui représente le rôle des deux planètes Pluton-Neptune. Donc cette ère de 2000 ans s'achève sur un maximum de confrontations, si vous voulez, et d'antagonismes, pour justement liquider, c'est en somme une sorte de liquidation de tout le passé de ces 2000 ans que nous vivons en ce moment. Alors, ce que sera cette ère du Verseau, on a écrit beaucoup sur ce sujet-là, c'est un sujet en or, et qui me paraît difficile à pouvoir prévoir exactement, parce que tout est si mobile et tout peut changer tellement, et en fait, tel que nous pouvons le voir, les antagonismes se résoudront pour arriver à une forme de synthèse de l'esprit. Autant les poissons ont été marqués par cette dualité dans l'esprit comme dans les nations, comme entre les nations et comme entre toutes choses, là nous arrivons, le Verseau est un signe de fraternité universelle, donc nous devrions arriver à cette époque de bonheur parfait. Il faut d'abord y arriver. L'homme ne sera un frère pour l'homme, il ne sera plus un ennemi, il ne sera plus un loup pour l'homme. Et où les esprits également, non seulement les personnes et les hommes, mais les esprits eux-mêmes arriveront à faire cette forme de synthèse qui est exactement l'opposé de ce que nous pensons.
On a l'impression que vous avez passé, disons, dans un domaine presque affectif, puisque vous avez utilisé le mot de fraternité. Maintenant, dans la connaissance, alors, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, justement, nous devons tenir compte des éléments, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, parce que c'est un monde aussi. Le signe des poissons était un signe d'eau, comme son nom l'indique, et le signe du Verseau est un signe d'air. Or, dans le domaine des connaissances, ce qui va certainement se passer dans cette période de 2000 ans, c'est une conquête de l'espace et une connaissance de l'espace qu'on ne peut pas imaginer maintenant, n'est-ce pas? Les explorations, au lieu d'être marines comme elles ont été pendant l'ère des poissons, maritimes, vont être dans l'espace. Et certainement, il y aura des explorations du système solaire, si ce n'est plus loin. Enfin, il y a là un champ d'ouverture extraordinaire dans le domaine de la connaissance.
Le triomphe de la science?
Le triomphe? Non, pas forcément, parce que la science, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la science, en même temps, ouvre à l'homme des portes d'une autre connaissance. La science, qui est la science pure, ne peut pas être vraiment complète. Elle ne peut exister que si elle fait la synthèse avec l'esprit supérieur. Et ce que je vous disais, les gnostiques de Princeton en sont les prémices, les précurseurs. Nous arrivons à cela. Cette science immense, cet espace immense qui va s'ouvrir à l'homme, est obligé d'ouvrir l'esprit de l'homme. En même temps, l'esprit de l'homme s'ouvrira à ce sentiment, d'abord qu'il est universel et qu'il n'est pas simplement personnel, et que le monde est un monde entier auquel il appartient, et donc il ne peut plus avoir ces petites idées et ces petits antagonismes dont nous vivons encore les derniers sursauts.